Ce soir, de quoi on va parler? On va parler de Gaza, on va parler de Kanaky, on aura peut-être une interview en direct, c'est en train de se décider, on va voir. Enfin, pas par rapport à la Kanaky, hein, par contre, on l'interview, mais voilà. Et on va parler d'une enquête que le Monde a fait par rapport aux expulsions et à comment l'Union européenne favorise et finance les expulsions, notamment au Maroc, en Tunisie et en Mauritanie. Voilà, un peu pour ce qui commence. On commence par un de tes deux trucs.
Ouais, pardon, j'étais en train de me dire que si ça se trouve avec ces histoires d'expulsion, il y aura pas que Netanyahu qui va se retrouver à la CPI à un moment ou à un autre. Tous les présidents et les ministres de l'Intérieur européens pourraient s'y retrouver aussi, ce serait coolos.
Ah bah ouais, si ça se trouve. Parce qu'on a quelqu'un au bout de téléphone, du coup ça va peut-être faire des petites incertitudes à l'antenne.
Non, mais c'est pas grave, parce que je vais parler rapidos de Gaza et de cette histoire de Cour pénale internationale. En plus, je vais rien dire de très passionnant, parce que c'est juste s'il y a des gens vraiment qui ont écouté aucun média depuis hier, même avant-hier soir. La Cour pénale internationale a requis des mandats d'arrêt. Alors attention, requis, c'est pas lancé, je vais y revenir. Des mandats d'arrêt contre quelques responsables du Hamas et en même temps contre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Gallant. Autant vous dire que ça chie dans les ventilos. Alors quand je dis que les mandats d'arrêt ont été requis et pas lancés, ça veut dire que c'est le procureur qui a demandé des mandats d'arrêt, mais c'est pas lui qui décide là-dessus. C'est les juges de la CPI. Qui regarderont ces arguments et qui décideront d'émettre ou de ne pas émettre ces mandats d'arrêt. Et ça, on ne sait pas trop quand ça sera décidé. Ce qui veut dire que pour l'instant, Netanyahou peut encore venir en vacances sur la Côte d'Azur. S'il a envie, il ne sera pas arrêté. Par la suite, par contre, si le mandat d'arrêt était effectivement lancé, il pourrait être arrêté sur la Côte d'Azur, parce que, étonnamment, la France a pris une position, ma foi, correcte sur le sujet. Ce qui n'est pas le cas de tous les pays du monde. En tout cas, rapidement pour votre culture générale, la CPI, c'est quoi? C'est une structure de justice internationale, celle qui est fonctionnelle maintenant, celle qui peut juger les individus, contrairement à la CIJ, qui est la Cour internationale de justice, qui elle juge des États. La CPI juge des individus pour quatre types de délits qui sont crimes contre l'humanité, crimes de guerre, génocide et crimes d'agression. La CPI, c'est un truc, c'est relativement neuf. Il y a une histoire de... Avant, il y avait des... Alors bon, il y a toute une histoire de la justice internationale. Dans les années 90, il y a eu deux TPI qui sont des tribunaux pénaux internationaux. Et à chaque fois, c'était un truc qui était créé pour l'occasion. Il y a eu le tribunal international pour la Yougoslavie et le tribunal international pour le Rwanda. C'était deux endroits où ils étaient passés un sacré paquet de choses particulièrement horribles en termes de génocide. Et du coup, à chaque fois, il y avait eu un tribunal pénal international pour juger les responsables. Mais c'était des juridictions one-shot qui étaient juste créées pour la situation. Après, les pays ont trouvé que finalement, ça valait le coup d'avoir une structure stable. Et donc ils sont réunis à Rome et ils ont créé ce truc qui s'appelle le statut de Rome. Ça, c'était en 98. Après, il a fallu qu'un certain nombre de pays valident ce statut de Rome. Et en réalité, ça a commencé uniquement en 2002, qu'il y a eu assez de pays pour qu'on considère que c'était valable. La CPI ne peut juger du coup que les crimes qui datent à partir de 2002. Et elle n'intervient aussi que si on a des bonnes raisons de penser qu'il n'y a pas un tribunal national qui pourra s'occuper des affaires. C'est-à-dire que là par exemple, si on pouvait penser sérieusement qu'un tribunal israélien pourrait juger Netanyahou pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et toutes sortes de crimes de guerre, que ça soit pas à cause du nombre de civils écrabouillés sous les bombes ou que ça soit à cause du fait d'organiser une famine, mais si on avait une chance qu'un tribunal international le juge réellement pour ça, la CPI ne s'en occuperait pas. Bon, a priori, ça, effectivement, ça va pas se passer. Et donc on verra bien ce que diront les juges de la CPI. Alors bien sûr, Israël, les États-Unis, quelques autres pays, tout un tas d'organisations et de gens considèrent cette décision comme scandaleuse. L'argumentaire, comme d'hab, c'est que tout ça repose uniquement sur l'antisémitisme. Donc rappelons à toutes fins utiles que l'antisémitisme, c'est quand on en veut aux juifs parce qu'ils sont juifs. Quand par contre on en veut à tel ou tel juif en particulier, par exemple parce qu'il massacre, il ordonne le massacre ou il participe au massacre de gens par dizaines de milliers. Et si on ne considère pas que les autres juifs, ceux qui n'ont rien à voir avec ces massacres, seraient aussi responsables, à ce moment-là, ce n'est pas de l'antisémitisme, c'est juste qu'on considère que ce n'est pas bien de massacrer les gens à grande échelle, qu'on soit juif ou non. Et donc le fait que le qu'on soit juif ou non, c'est exactement le contraire de l'antisémitisme. Voilà, quoi signaler pendant qu'on parle de Gaza et avant de passer à l'interview, c'est qu'aujourd'hui, trois pays européens ont reconnu la Palestine comme un État. Il s'agit de l'Espagne, de l'Irlande et de la Norvège. En réalité, il y a déjà tout un tas de pays autour du monde qui considèrent la Palestine comme un État, mais c'est souvent pas des pays occidentaux, pour le coup, des pays qui ont moins de pouvoir globalement à la surface du globe. Là, trois pays européens, c'est une nouveauté. Et pareil, les Israéliens sont pas contents du tout, du tout, du tout. Ils ont rappelé leurs ambassadeurs de ces trois pays. Il y en a trois pour l'instant, et il y en a un quatrième qui va le faire d'un jour à l'autre. C'est la Slovénie. Ils sont en train de finir de régler des petits machins administratifs, mais voilà, ça va être fait. Et ben on peut dire que j'ai terminé avec mes petites infos sur Gaza et que ça va être l'heure d'écouter quelqu'un qui est en direct de l'expulsion d'un gymnase qui a été occupé par des femmes et des enfants, mais on va en savoir plus dans une seconde. On vous entend dans le micro.
Canu Info.
Alors voilà, bonjour, là on est normalement en direct avec une personne du collectif Solidarité Femmes à la Rue qui a beaucoup fait parler de lui dans les médias, dans l'actualité lyonnaise ces derniers temps. Et du coup, face à l'actualité brûlante, d'abord bonjour.
Bonjour.
Voilà, et ben est-ce qu'on entend bien, ok, on t'entend bien, c'est très bien. Alors est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe exactement, où tu es et ce qui se passe exactement maintenant?
On est au gymnase du Lyon 2e, juste à Sainte-Blandine.
Oui.
Juste derrière Sainte-Blandine, on est là. Il y a le monsieur Loeur qui est là, qui a demandé un mandat de réquisition. Ils ont dit que la police va venir pour nous mettre dehors, nous et nos enfants, parce qu'ils disent qu'on est en train d'utiliser les enfants et les femmes pour marcher des squats en squat, pour perturber la paix lyonnaise.
D'accord. Vous êtes à peu près combien, là?
Là, on est à peu près 130-140.
D'accord. Très bien. Là, d'ailleurs, on entend les cris, parce que là, qu'est-ce qui se passe, en fait? Est-ce que tu peux nous décrire la situation? Est-ce qu'il y a la police devant l'endroit où vous êtes?
La police arrive avec... Il y a un monsieur qui va arriver de la préfecture avec le mandat de réquisition, et la police a dit quand ils vont venir avec ça, ils vont nous prendre pour nous mettre dehors. Si on ne veut pas sortir, ils vont nous porter et porter nos enfants pour nous mettre dehors.
D'accord. Donc, et la personne qui vous a dit ça, c'est une personne envoyée par la préfecture?
Non, c'est lui-même le monsieur le maire qui est là au milieu.
Ah, c'est le maire. D'accord, c'est le maire de Lyon.
C'est le maire de Lyon 2e.
Ah, le maire du 2e, d'accord. Et du coup, cette personne vous dit que vous utilisez vos enfants
oui, alors que vous... nous utilisons nos enfants pour perturber la paix lyonnaise. Or, que c'est pas ça. Nous voulons juste un hébergement parce qu'on a fait toutes les demandes qui n'a pas abouti à quelque chose.
Et actuellement, donc, vous êtes un groupe de femmes et d'enfants qui vivaient dans la rue, et ce gymnase que vous occupez, donc c'est pas un logement, c'est un gymnase. Et du coup, le maire du 2e vous dit que vous ne pouvez pas l'occuper malgré le fait que vous êtes à la rue et que vous n'avez aucune autre solution. C'est bien ça?
Oui, c'est ça.
D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'est passé la dernière fois, parce qu'il me semble qu'il y a déjà eu une occupation.
Oui, la dernière fois, c'était vers 23h. On était là avec nos enfants et c'est le maire ensemble. Je crois que Mme Sandrine nous avait donné mandat de nous mettre dehors avec les enfants. Et c'était là qu'ils étaient venus, plus de 75 policiers avec des gaz lacrymogènes pour nous mettre dehors. Et ils ont dit, si on ne sort pas en paix, ils vont nous mettre dehors. On était sortis vers 23h.
D'accord, très bien. Donc, et quand vous avez été sorti, il me semble que ça a quand même été psychologiquement. Est-ce que ça a eu un effet sur vous, sur vos enfants?
Oui, il y a des effets sur nous et sur nos enfants. Nos enfants ne sont pas sanes. on n'arrive même pas à vivre en paix. On est des femmes, on veut aussi être mis dans la société. Là, on ne peut pas travailler, on ne peut rien faire parce qu'on n'a nulle part où laisser les enfants, on n'a nulle part où préparer pour prendre soin des enfants. C'est un peu ça.
Voilà, et donc ce qu'on peut dire, c'est que face à cette situation difficile pour vous, vous avez réussi à vous organiser et à occuper des bâtiments de la ville pour non seulement pour vous loger, mais aussi pour alerter votre situation. Et du coup, la ville qui est la ville de Lyon, qui est une mairie écologiste, a contribué à vous expulser sans solution de relogement. Est-ce que c'est bien ça?
Pas solution de relogement, c'est ça. Ils ont donné aucune solution. Ils ont dit juste qu'on se mette dehors avec nos enfants.
D'accord, très bien. Et donc là, en ce moment, tu penses que, enfin, il n'y a aucun soutien. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver là, dans les minutes ou dans les heures qui viennent?
En tout cas, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver dans deux minutes qui viennent, mais on sait juste qu'on est là, on ne bouge pas. On est là avec nos enfants. Cette fois-ci, on ne sort pas parce qu'on est fatigué. On est fatigué de rester dehors avec nos enfants. Cette fois-ci, on est là. S'il y aura la police, s'il y aura des gens qui vont mourir, on accepte tout. Le plus important, qu'on ait un toit. Parce que vivre dehors, c'est pas aussi une vie. C'est pas ce qu'on veut pour nos enfants. Pour le futur de demain, c'est pas ce qu'on veut.
Très bien. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que là, vous êtes actuellement dans ce gymnase et que vous êtes déterminé, que vous êtes organisé et que vous avez décidé de prendre les choses en main et que de toute manière, vu qu'on vous expulse sans arrêt et que sans aucune solution, cette fois-ci, vous avez décidé d'occuper et de rester coûte que coûte. C'est bien ça?
Oui, c'est bien ça. On ne bouge pas.
D'accord. Et est-ce que vous avez besoin de soutien là actuellement, c'est-à-dire de gens qui viennent?
De tout le monde.
D'accord. Donc, du coup, on lance un appel aux gens qui veulent venir soutenir ce collectif, à venir, du coup, quelle est l'adresse? Où est-ce que les gens peuvent venir pour vous soutenir?
L'adresse?
Où est-ce que les gens peuvent venir pour venir vous soutenir, si vous avez besoin de...
Une minute, s'il vous plaît.
Oui. Il n'y a pas de problème.
Casimir Perrier. On est à 1 rue Casimir
Perrier. Ok, 1 rue Casimir Perrier dans le deuxième, à côté de l'arrêt Sainte-Blandine.
Gymnase Louis-Chanfray.
Ok, gymnase Louis Chanfray. Et du coup, je suis désolé pendant qu'on est avec toi. Est-ce qu'on peut te demander un petit résumé historique du mouvement, c'est-à-dire d'où vous venez, comment vous avez commencé à vous organiser, qu'est-ce que vous avez occupé, qu'est-ce que vous avez fait avant? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu votre histoire en fait collective de votre mouvement?
En tout cas, ce n'est pas la première fois où on a occupé une gymnase à Lyon aussi.
Oui.
On a occupé aussi à Villeurbanne. Justement, on n'est pas allé à beaucoup de détails. On a occupé aussi à Villeurbanne. On a occupé celle d'argent. Celle qu'on avait occupée, celle qu'ils nous avaient mis dehors. Mais par rapport à ça, toute occupation, il y a toujours eu des résultats. Il y a des femmes qui ont été hébergées. Mais cette fois-ci, c'est que la mairie ne veut pas. Et tous les élus ne veulent pas nous accorder cette chance.
D'accord, donc ce qu'on peut dire, c'est que votre lutte, elle paye un petit peu, c'est-à-dire que vous avez réussi à gagner quelques petites choses, mais du coup, vous attendez de gagner vraiment des logements et que vous la continuez, cette lutte, c'est ça?
Oui, c'est ça qu'on veut. S'il y aura des réponses favorables quand quelqu'un fait une demande, par exemple à la veille sociale, cette manif ne sera pas là. Notre organisation ne sera pas là. Mais quand les réponses viennent après 3 ans, après 4 ans, tout ce temps, vous restez dehors là, il y aura toujours des manifs.
D'accord. Et vous êtes organisé à peu près depuis combien de temps?
Nous qu'on est là, on prépare ça, il y a 4 mois passés.
D'accord. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire, que tu voudrais rajouter aux auditeurs, aux auditrices, ou un appel que tu voudrais lancer peut-être à la métropole de Lyon, ou même aux autres femmes qui sont avec toi?
Ce que je peux demander, c'est que qu'on donne juste des hébergements. On n'est pas là pour salir l'image de la ville de Lyon, on n'est pas là pour casser des choses. On veut juste être visible. On veut juste avoir un toit comme tout le monde. On n'est pas là pour abîmer quelque chose. Si la métropole donner des hébergements, effectivement, comme des maisons. On n'allait pas être là. Il y a des femmes qui sont là avec des grossesses. Il y a des femmes qui sont là en couple, que la métropole ne peut pas le loger parce qu'il est en couple. On la met dehors après un mois de l'enfant et tout. Mais là, on veut juste un hébergement. On veut juste un hébergement. On n'est pas là pour nuire qui que ce soit. Ayez pitié de nous, regardez nos enfants. C'est juste ce que je peux dire.
Eh bien, très bien. Merci beaucoup. Merci pour ton appel et bon courage à vous.
Merci beaucoup.
Et en tout cas, on reste joignable jusqu'à la fin de nos informations. Donc, d'ici une demi-heure, si jamais il y a du nouveau de votre côté pour continuer à diffuser l'information.
D'accord, merci beaucoup.
Allez, au revoir et peut-être à tout à l'heure.
Au revoir,
bon courage.
Au revoir. Tadine, bon.
La plus rebelle des radios.
Canu Info.
Ah, et là, on retourne en Kanaki.
Tout à fait.
Canu Info.
Ah. Depuis le début des émeutes en Kanaky, on l'a assez entendu, on compte 6 personnes qui ont été tuées par balles sur le territoire de Nouvelle-Calédonie. On en entend beaucoup parler, et on en entend beaucoup parler généralement de manière un petit peu vague, mais qui sert beaucoup à illustrer la sauvagerie des émeutiers, des indépendantistes, de la CCAT, des Kanaks. Mais en fait, ça vaut le coup de se pencher un peu sur le cas de chaque victime, parce que finalement, ces morts par balle illustrent plutôt énormément, et encore une fois, la sauvagerie du système colonial. Alors, en fait, il y a 4 civils qui ont été tués et 2 gendarmes. Le procureur de Nouméa tient à souligner que aucune manifestante n'est morte sous les tirs des forces de l'ordre, et c'est vrai. Mais il est vrai aussi que les 4 civils qui ont été tués sont bel et bien 4 Kanaks, 4 indépendantistes qui participaient aux troupes d'une manière ou d'une autre. Et que c'est effectivement pas des gendarmes ou des flics qui ont été tués, mais dans une société coloniale très ségrégée, bien sûr, c'est effectivement pas des gendarmes ou des flics qui les ont tués, ces 4 personnes, mais dans une société coloniale très. Je veux dire, la Kanaky, ça a vraiment un côté société coloniale 19e siècle, quoi. C'est vraiment, c'est l'Algérie française en 45, c'est incroyable. Et du coup, c'est entre autres une société où bien sûr que les colons ont des armes et qui s'en servent. Et c'est ce qui s'est passé dans ces 4 cas. On va y revenir de manière un peu plus précise. Le premier qui est mort, c'est un gars qui avait une vingtaine d'années, qui a été tué le mercredi 15 mai sur la presqu'île de Duco. Et donc là, je vous lis ce que le procureur en a dit dans une sorte de conférence de presse où il a fait le bilan de tout ça. La victime, explique-t-il, se trouvait sur un blocage à un rond-point et a été touchée par un projectile dans le dos. Trois personnes ont reconnu avoir tiré en direction des manifestants. Ça veut dire que c'est un moment où il y a des manifestants qui bloquent un rond-point. Et là, des gens tirent sur les manifestants. Alors, dans un contexte de, nous dit toujours le procureur, dans un contexte de menace et d'intimidation à leur écart. Et ces 3 personnes sont mises en examen du chef de meurtre. Elles ont été placées sous assignation à résidence, sous surveillance électronique. Bon, déjà, des gens qui sont mis en examen pour meurtre, en métropole, généralement, les gens ne sont pas assignés à résidence, ils sont quand même plutôt gardés en prison, en détention préventive. Là, c'est pas pareil, c'est dans les colonies, la loi est un peu différente, donc ils sont bien assignés en résidence sous surveillance électronique malgré tout. Mais donc voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est bien des sortes de citoyens vigilants en quelque sorte, qui se sont sentis menacés. Et en fait, vous allez voir, pour toutes les histoires dont on va parler là tout de suite, c'est toujours des blancs qui se sentent menacés, dans leur bien ou dans leur propriété. Mais alors, si les menaces, c'est les blancs qui se sentent menacés, allez savoir pourquoi, c'est quand même toujours les Kanaks qui se font descendre. Les 2 suivants, une fille de 17 ans et un gars qui avait 36 ans. Alors c'est toujours la conférence de presse du procureur, hein, qui nous explique qu'en arrivant dans son entrepôt, un gérant de société, donc lui blanc, Alors, je vais aussi peut-être adément utiliser un peu ce vocabulaire de caldoche. Il faut comprendre que caldoche, c'est pas une couleur de peau en Nouvelle-Calédonie. C'est un peu comme les béquets dans les Antilles ou des choses comme ça. C'est vraiment un statut social de. C'est pas juste le bleu. Je sais pas le prolo blanc qui serait arrivé de la métropole pour un boulot à la con. Je sais pas quoi. C'est vraiment des blancs riches. Des blancs riches, des notables, des gens influents. Par exemple, des gérants de société. Exactement ça.
Mais ce qui est quand même assez étonnant, parce qu'effectivement, depuis le début de ce mouvement, quand même, je trouve que les premières personnes qu'on interviewait à chaque fois, c'était l'équivalent du MEDEF. Enfin, le MEDEF.
Le MEDEF, pardon.
Ouais, ouais. Et c'était assez flagrant, je trouve, comme traitement.
Oui, c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui ont un pouvoir économique et social et qui est pas principalement une histoire de couleur de peau, même si de fait, dans les gens en question, il y a zéro canac, il n'y en a pas le moindre. En tout cas, voilà. Donc là, c'est un gérant de société qui arrive dans son entrepôt et qui, alors le procureur s'exprime quand même, comme l'affaire est en cours d'instruction, s'exprime quand même au conditionnel, qui les aurait tous deux aperçus dans son véhicule en train d'être volés. Donc ce gérant de société fait usage de son arme en visant chacune des victimes au niveau du front. Bon, comme ça, au moins, c'est clair et net. Mis en examen du chef de meurtre, l'auteur présumé a été placé, lui, pour le coup, en détention provisoire sur décision du juge des libertés et de la détention. Oui, parce que la loi française, même dans les colonies, n'autorise pas encore de flinguer froidement quelqu'un qui est en train de voler une voiture. Même si le quelqu'un est un canac. Enfin, en l'occurrence, deux canacs. Pour le dernier mort civil, ça s'est passé comme ça, toujours selon le procureur. Un homme, âgé de 51 ans, résident à Caen-la-Gomène, conduisait son véhicule à vive allure sur un barrage constitué par des manifestants. Donc il y a un barrage, le gars il arrive, il fonce dans le tas, et là, il se fait caillasser. Donc pardon, je continue à lire la déclaration du procureur. Suite à un caillassage qui a provoqué le bris d'une vitre de sa voiture, il s'est rendu à son domicile pour s'emparer de deux armes d'épaule. Il a tiré plusieurs coups de feu en direction du barrage et il a atteint mortellement... Il a été atteint mortellement.
Bon, est-ce qu'il est mort ou pas ? C'est-à-dire, est-ce qu'il a
été...
Ah
ouais, mais en fait, je me suis trompé là-dessus. Putain, j'y comprends rien. Ah si, c'est ça. Le gars, il est, du coup, il fonce sur le barrage. Il se prend des gadins, il rentre chez lui, il revient avec des flingues et là, il tire sur le barrage. Mais effectivement, contrairement à ce que j'avais compris quand j'ai rédigé le truc, c'est lui qui, à la fin, est mort. Son fils a été blessé et un manifestant a été blessé aussi, puisque c'est lui qui a commencé à tirer, mais de fait, il y a eu un échange de coups de feu. Et voilà. Il reste donc que deux gendarmes ont aussi été tués. Alors, pardon, mais quand même, du coup, effectivement, c'est lui qui a été tué, mais c'est quand même pareil. C'est toujours une histoire du gars qui commence qui est énervé parce qu'on lui a caillassé sa bagnole. Son réflexe, c'est de rentrer à la maison, de prendre deux flingues et de revenir et de tirer sur le barrage. Il y a un niveau d'être prêt à la violence qui est un peu dingue. En l'occurrence, c'est lui qui a été tué. Et donc il reste que deux gendarmes ont aussi été tués. Alors leurs corps sont rapatriés aujourd'hui, ils sont accueillis en grande pompe à l'aéroport, les honneurs de la République, la Légion d'honneur à titre posthume, tous les ministres qui à un moment ou un autre vont les pleurer solennellement sur leur cercueil, tout ça. Des héros de la nation, morts en défendant la République. Bon, le premier de ces gendarmes, alors si on lit attentivement ce que dit le procureur, c'est quand même pas clair à 100%. Il a été atteint à la tête par ce que le procureur appelle un projectile lors d'un échange de coups de feu avec des gens qui, pour le coup, visiblement, ont attaqué le véhicule de gendarmerie. Le véhicule vers lequel ces gens-là auraient tiré une quinzaine de coups de feu. Bon, ce flic a peut-être été flingué par des gens qui lui ont tiré dessus exprès, mais quand même peut-être parce que je ne comprends pas exactement pourquoi le procureur dit un projectile plutôt qu'une balle. C'est ce qu'on dit généralement dans ces cas-là. Alors, est-ce qu'il y aurait eu des échanges de coups de feu, mais qu'à la fin, le gendarme, il serait mort d'avoir pris un caillou dans la tronche ? C'est pas précis, mais voilà, en tout cas, effectivement, lui, c'est un gendarme. Il est allé, il est mort en faisant son devoir, tout ça. Mais le deuxième gendarme, soyons bien clairs, le deuxième gendarme, c'est une victime des violences policières, au même titre que... Non, je vais pas salir le nom d'Adama Traoré sur ce coup-là. Mais en tout cas, le deuxième gendarme a bien été tué par un collègue. Alors, un collègue maladroit, trop enthousiaste, enfin, vous savez comment ça se passe quand on file des armes aux forces de l'ordre, il faut toujours qu'il y ait un exalté qui tire sur quelqu'un. Le plus souvent, c'est sur un jeune de banlieue, mais bon, des fois, non. Et dans le cas qui nous occupe, l'exalté a tiré plutôt sur un autre gendarme. Alors là aussi, bizarrement, on n'a pas l'identité du tireur. C'est une enquête pour homicide involontaire durant le travail qui a été déclenchée et qui n'a pas encore abouti pour l'instant. Enfin, c'est pas grave. Comme ça, l'autre, il a les honneurs de la République, tout ça, c'est pas mal aussi. Résumons donc, 6 morts en tout et pour tout. Un qui a sans doute été tué par... Alors, deux pour le coup, un gendarme et un autre gars qui a sans doute été tué par les émeutiers, en sachant que l'autre gars, c'est lui qui a ouvert le feu en premier. Donc, trois qui ont été tués par des citoyens vigilants et le dernier qui s'est pris une balle d'un gendarme. Après avoir fait cette synthèse, qu'est-ce que ce brave procureur dont j'ai eu une déclaration en conférence de presse en tire comme conclusion? Et bien, il en tire comme conclusion qu'il faut viser les commanditaires, soit les responsables du CCAT, le comité de coordination des actions de terrain, c'est-à-dire le comité qui rassemble les différentes organisations indépendantistes, c'est-à-dire globalement les gens qui se font tuer. Et le procureur lance donc une enquête contre les responsables du CCAT pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ou d'un délit, participation à un groupement formé en vue de la commission de dégradation ou de violence volontaire, vol en bande organisée, destruction de biens commis par incendie en bande organisée et complicité par instigation ou fourniture de moyens des crimes de meurtre et de tentative de meurtre sur les forces de l'ordre. Alors voilà, c'est vrai que ces quelques dernières années, on entend de plus en plus souvent, ici un procureur, là un ministre, parfois un syndicaliste d'Alliance, dire avec une sorte de voix solennelle qui souligne un peu la gravité de son propos, que maintenant, il y a réellement une intention, alors selon les cas, une intention des jeunes de banlieue, des éco-terroristes, des black blocs, des colonisés, une intention de tuer des flics. Généralement, ils disent flics dans ce cas, pour bien montrer que la rudesse de leurs propos. Mais on dirait que, alors que ça soit les éco-terroristes comme les Kanaks, les Black Blocs comme les émeutiers du 9-3, sont vraiment nuls, parce que les flics ne meurent finalement pratiquement jamais, contrairement aux gens qui veulent les tuer, qui eux par contre meurent quand même nettement plus souvent.
Et on va s'écouter une petite chanson que tu nous présentes, ça s'appelle comment ?
Ah, ça s'appelle Dans mon jogging Adidas, et ma foi, on peut faire plein de choses dans ce jogging Adidas.
Vraiment trop la classe. Dans mon jogging Adidas. Adidas. Je te respecte pas des masses. Je suis caïd de ma paroisse. Je vais les pomper, je prends de la masse. Je suis saoulé, je me casse. Dans mon jogging Adidas. À moi-même je dédicace. Dans mon jogging Adidas. Des nanas muchas gracias. Dans mon jogging Adidas. J'ai vraiment trop la classe dans mon jogging Adidas.
Attention, j'arrive.
Et voilà. Et c'est l'heure de la chronique. Vas-y.
Oui, et ben non, je vais vous parler un petit peu du Kurdistan, en fait, plus du Kurdistan, plus exactement, pour être plus précis, je vais plutôt vous parler du procès dit de Kobané, donc procès qui a eu lieu en Turquie le 16 mai dernier. Alors, pourquoi ça s'appelle procès de Kobané ? Donc, on va rappeler un petit peu, pour ceux qui étaient passés à côté, que Kobané, en 2014, c'était la ville qui avait, la ville kurde, à majorité kurde de Syrie, qui avait résisté contre Daesh. C'était l'époque où, Daesh avançait sans s'arrêter. Comme ça, inarrêtable. Et ils sont tombés sur la ville kurde de Kobané. Et là, grâce à une résistance assez incroyable et assez héroïque des Kurdes, notamment des femmes kurdes qui ont été mises à l'honneur à ce moment-là, ils et elles ont arrêté la progression de Daesh et ont vaincu sur Daesh alors que tout le monde pensait que ce serait impossible. Et ils ont réussi ça. Alors, à ce moment-là, suite à ça, il faut savoir quand même que la ville de Kobané se situe en Syrie, du coup, mais à la frontière avec la Turquie. Et à ce moment-là, le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, toujours le même, hein, parce qu'il peut rester des années celui-là, à ce moment-là, celui-ci avait prononcé au milieu des combats, avait prononcé déjà la chute de Kobané, avait dit Kobané va tomber, et lui, ça l'arrangeait bien que Daesh s'occupe des Kurdes, parce que il a une haine contre les Kurdes, minorité, pas que lui en général, les gouvernants de l'État turc sont toujours opposés aux Kurdes, parce qu'ils ne leur accordent pas leurs droits, etc. Donc à ce moment-là, notamment les partis d'extrême gauche pro-Kurdes, avaient appelé à des manifestations pour soutenir les Kurdes civils qui se battaient contre Daesh à l'intérieur de la ville de Kobané, et notamment avaient demandé à la Turquie de pouvoir passer la frontière pour pouvoir aller aider leurs camarades qui se battaient contre Daesh, et évidemment la Turquie avait fermé la frontière et l'avait bel et bien gardée. Donc il y a eu des manifestations dans tout le pays pour soutenir ces gens-là, et notamment des manifestations avec de très belles images, parce qu'il y a quand même eu une manifestation qui a réussi à passer à travers la frontière, c'est-à-dire que les gens se sont massés, il y a eu des échauffourées avec l'armée, avec la police, avec les gardes frontières, et finalement la foule a pu détruire cette frontière et passer de l'autre côté et arriver à Kobané. Et c'est là qu'il y a plusieurs personnes qui ont aidé les Kurdes de Syrie à combattre Daesh alors qu'eux venaient de Turquie. Suite à ces manifestations, du coup, plusieurs personnes ont été accusées de terrorisme ou de lien avec un parti terroriste, etc. En l'occurrence, le PKK, donc le parti kurde, le parti des travailleurs du Kurdistan, qui mène une lutte armée depuis plus de 40 ans. Et du coup, tous les gens qui ont un petit peu connu, qui ont participé ou appelé à des manifestations en soutien à Kobané pendant cette période-là, ont été accusés et mis en prison. Et là, c'était leur procès. Donc, ils ont fait énormément d'années de préventive. Donc, alors, leur procès, donc ce qui était le 16 mai dernier. Alors, il faut savoir qu'il y avait 108 accusés. C'est quand même un procès énorme, historique, etc., qui a duré des mois et des mois. Là, c'était le résultat. Donc, 108 accusés. Sur les 108 accusés, on peut quand même souligner l'esprit magnanime de la justice turque, puisque sur les 108, il y a eu 12 acquittements. Alors, il faut quand même savoir que parmi les acquittements, on peut retenir l'acquittement de cette femme dont je n'ai plus le nom, malheureusement, mais qui a été acquittée suite au fait que, quand elle avait été arrêtée pour cette histoire, elle avait subi des tortures, comme la plupart des gens qui ont été arrêtés, et elle a, comment on appelle ça, elle n'est plus normale, en fait, elle a perdu l'esprit, enfin, elle est plus normale, et du coup, cette femme-là a été acquittée. Voilà, donc c'est un petit peu pour montrer aussi la forme d'ironie qu'il y a dans ces acquittements. Alors, ce qu'on peut préciser, c'est que quand même, du coup, forcément, ceux et celles qui ont eu les peines les plus lourdes, donc c'est les deux coprésidents du parti pro-kurde de cette époque, c'est-à-dire Selahattin Demirtas et Figen Yüksekdağ. Donc Figen Yüksekdağ, elle a eu 30 ans, elle a écopé d'une peine de 30 ans. Les peines moyennes, c'est en moyenne, du coup, avec la totalité, la peine moyenne, c'était à peu près 16 à 17 ans. Voilà, donc on rappelle, pour avoir dit publiquement qu'on soutenait la rébellion kurde, la lutte kurde contre Daesh. Ensuite, il y a eu Selahattin Demirtas, qui s'était présenté d'ailleurs de sa prison contre Erdogan, qui lui a écopé de 42 ans. Et alors, moi, ce que je vous propose, sans faire le détail de toutes les condamnations et tout ça, ce que je vous propose, c'est par exemple de vous lire un petit extrait de la déclaration de Selahattin Demirtas suite à l'annonce de sa condamnation. Alors voilà, lui ce qu'il disait, c'est « Que personne ne s'inquiète, notre nuque ne pliera pas, nos genoux ne fléchiront pas. L'État a toujours préféré la guerre et la violence à la politique. Sa vision des choses ne change pas. Il croit qu'il peut détruire les Kurdes par la force. Il croit qu'il n'est pas possible de leur faire face politiquement. Alors, après ça, à la fin, je voulais quand même moi dire un petit mot sur Gültan Köçenak. Gültan Köçenak, qui était maire de Diyarbakir, elle avait été, à cause de cette histoire de Kobané, elle avait été condamnée à 8 ans de prison. Du coup, elle avait été destituée en tant que maire. Un remplaçant administratif de l'État avait été nommé à sa place pour gérer la ville. Elle avait été condamnée à 8 ans de prison. Là, elle est sortie. Bon, il se trouve qu'elle en a fait 12. Hein, donc, au niveau remise de peine, c'est plutôt le contraire de ce à quoi on est habitué. Et moi, pourquoi je voulais parler de Gültan Köçenak, qui était maire de Diyarbakir et qui sort après ses 12 ans de prison? Parce que elle était déjà en prison en Turquie, dans la prison de Diyarbakir, prison, ville dans laquelle elle a été maire après, en 1980, aux côtés notamment de Sakine Cansöz, qui a été assassinée à Paris il y a un peu plus de 10 ans. Et elle avait participé à cette révolte historique des prisonniers politiques de la prison de Diyarbakir dans les années 80, qui était connue pour être une prison avec énormément de torture. Et ils avaient obtenu à ce moment-là, il et elle, puisque avaient obtenu à ce moment-là pas mal de droits, comme le droit de se réunir avec les autres prisonniers politiques hommes, ou être ensemble et pouvoir faire des réunions dans leur prison. Voilà. Et donc Gültan Köçenak est ressorti de prison, du coup, après ses 12 ans et sa condamnation à 8. Et voilà, et elle, sa déclaration, c'est: nous avons besoin de liberté et de paix, pas de libération. Et sous-entendu, ma libération m'importe peu tant que j'ai encore des camarades en prison. Voilà, donc c'était juste pour vous parler de ça. Il y a eu un rassemblement à Lyon hier soir, ou avant-hier soir, je ne sais plus, hier soir, du coup, pour parler de cette histoire de procès de la Turquie. Voilà, je vais arrêter sur les infos du Kurdistan, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose qui se prépare là, de la Turquie. C'est que la Turquie est en train de construire, a fini de construire une alliance historique entre les quatre pays sur lesquels se répartit la population kurde, c'est-à-dire Turquie, Iran, Irak et Syrie, et attaque de plus en plus fortement les zones de la guérilla kurde au nord de l'Irak et le Rojava, et il faut se préparer à des attaques de beaucoup plus grande ampleur.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Et on va parler alors d'une longue enquête qu'a réalisée Le Monde en France avec l'aide de 7 médias internationaux et dont le média à but non lucratif Lighthouse Report. C'est à peu près toujours le même, les mêmes groupes de médias là dont on parle régulièrement, et ils se penchent beaucoup sur les questions d'immigration, qui démontrent comment l'aide des moyens européens, grâce à l'aide des pays européens, les pays comme le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie, pardon, je vais changer de micro parce qu'il déconne. Comment, grâce à l'aide de l'Europe, pardon, le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie, je vais y arriver, expulsent en plein désert de nombreux migrants et migrantes. Le point commun entre ces trois pays, c'est que l'Union européenne est particulièrement attentive à leur situation pour lutter contre ce qu'elle décide être une immigration irrégulière. Le contexte, on le connaît, en France et plus généralement en Europe, la montée de l'extrême droite dans de nombreux pays. Donc on déploie d'énormes moyens pour empêcher les exilés de rejoindre notre continent, en pensant que cela va faire baisser les votes ou intentions de vote à l'extrême droite. Et bien sûr, aucune étude ou aucune observation n'a montré un lien entre l'augmentation de la répression envers les migrants et une baisse des votes à l'extrême droite. Et effectivement, cela peut revenir à appliquer purement et simplement le projet migratoire des extrêmes droites européennes. Voilà, on file donc tout un tas de pognon à des pays tiers sous couvert d'aide au développement en échange d'un contrôle strict des départs, quand bien même ces pays sont coupables de violations répétées des droits humains. Mais bon, ça, on s'en lave bien les mains. Ce n'est pas nous qui le faisons. Depuis 2015, donc ces trois pays... donc le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie, car c'est sur eux que se sont penchés les journalistes, ont reperçu plus de 400 millions d'euros via le fonds fiduciaire d'urgence. Ce fonds a été déclenché lors du sommet de la migration qui a eu lieu à La Valette, capitale de Malte, en 2015. Alors petit rappel quand même du contexte. En 2015, la guerre en Syrie connaît un tournant. Bon nombre de personnes tentent d'échapper à ce conflit. Les politiques et les médias parleront de vagues migratoires, crises migratoires, submersion migratoire. Bref, on avait à l'époque tout un lot de superlatifs pour parler de ça. Les appels à fermer les frontières se multiplient et font du bruit, alors que les appels à la solidarité sont passés sous silence. Bref, la question migratoire devient ou redevient ou redevient, bref, on ne sait pas comment la nommer, encore plus centrale et posée comme problématique par les dirigeants européens. Donc, grosses sommes d'argent sont débloquées, je l'ai dit, par l'Union européenne, auxquelles on ajoute également les aides accordées par des États membres de manière un peu autonome. Par exemple, en 2023, l'Union européenne signe un accord avec la Tunisie qui comprend une aide de 105 millions d'euros pour la lutte contre l'immigration, alors que juste un peu juste avant, la France seule s'était déjà engagée à verser 25 millions d'euros à Tunis pour les mêmes raisons. Et donc, ces 25 millions s'ajoutent donc aux 105. Côté mauritanien, l'Union européenne signe un soutien financier avec Nouakchott de 210 millions d'euros, dont une partie sera allouée à la gestion migratoire. Alors bien sûr, rien ne donne exactement le pourcentage de cette somme qui est allouée, ni d'ailleurs si c'est donné le pourcentage, ni le contrôle de comment ce sera appliqué ou pas. Et depuis 2023, depuis 2023 encore, l'enquête du journal Le Monde révèle qu'au moins 29 personnes sont mortes dans le désert libyen. Dans ces trois pays, donc, les journaux ont pu documenter et dénombrer le nombre de renvois. Par exemple, au Maroc, au cours de l'année 2023, 59 000 migrants ont été arrêtés et déportés vers le sud ou l'intérieur du pays. À chaque fois dans des zones plutôt désertiques, arides, où il se passe rien et où les gens sont principalement en danger. En Mauritanie, chaque semaine, des bus remplis d'exilés sont abandonnés sans ressources à la frontière avec le Mali. Pour la Tunisie, 11 expulsions collectives ont été nombrées, peut-être davantage, mais c'est les seules qui ont pu être documentées pour l'instant, vers la frontière libyenne et algérienne. Si le 15 septembre, la vice-présidente de la Commission européenne, interrogée sur ces pratiques en Tunisie, s'est défendue, je la cite, « Ces pratiques ne se déroulent pas sous notre surveillance et ne font pas partie de nos accords. L'argent européen ne finance pas ce genre de tactiques. » L'enquête du regroupement de médias démontre pourtant bien le contraire. Encore une fois, le matériel fourni par l'Europe laisse peu de doutes quant à la volonté européenne. Je dis encore une fois parce qu'on se rappelle que ça avait été le cas quand il y avait eu des enquêtes par rapport aux bateaux qui avaient été alloués aux gardes-côtes libyens par l'Italie et par l'Europe, ou par l'Italie par le biais de l'Europe, où à chaque fois les refoulements illégaux, voire on avait des vidéos de gardes-côtes libyens qui tiraient sur des embarcations, et à chaque fois, par exemple, c'est les vedettes qu'utilisaient les gardes-côtes libyens étaient des vedettes qui avaient été fournies par l'Europe ou par un pays européen. On retourne en Tunisie. Des pick-up Nissan utilisés par la police pour arrêter les exilés correspondent au modèle livré par l'Italie et l'Allemagne entre 2017 et 2023. Au Maroc, cette fois-ci, les brigades de sécurité à l'origine des nombreuses arrestations sont financées par une enveloppe de 65 millions d'euros allouée par l'Union européenne. En Mauritanie, cette fois-ci, l'Europe finance à hauteur de 500 000 euros la reconstruction de deux centres de rétention. Ce sont de ces deux centres que les personnes sont conduites dans le désert via des pick-up Toyota Hilux similaires en tout point à ceux livrés par l'Espagne en 2019. Pour Le Monde, le constat est simple. Ces exemples, parmi d'autres, démontrent que ces opérations, contraires à la Convention européenne des droits de l'homme, bénéficient du soutien de l'Union européenne. Au Maroc, les rafles sont quotidiennes. Pour Lamine, un témoin interrogé par le journal, tous les blacks, je le cite, savent que s'ils sortent entre 10 et 20 heures, ils risquent de se faire embarquer. Fin de citation. Pendant plusieurs jours, des journalistes ont suivi et filmé les minivans utilisés par les policiers pour sillonner les rues de Rabat. Deux types de véhicules sont utilisés pour ces opérations. Les deux ont été achetés via le FFU, dont j'en parlais au début, c'est le fameux fonds fiduciaire d'urgence fourni par l'Europe. À chaque fois, les flics utilisent la même technique. Deux minivans blancs stationnent dans un quartier fréquenté par les migrants. Des agents en civil contrôlent et interpellent. Quand les vans sont pleins, ils repartent. En Mauritanie, c'est quasiment le même scénario qui se joue. Des minivans remplis d'exilés sont amenés dans des baraquements. Puis au bout de quelques jours, quand ces baraquements sont pleins, des bus viennent les expulser vers le Mali. Bella Yatadou, jeté près de la frontière malienne à Gogui, une zone désertique à plus de 1000 km de Nouakchott, témoigne. Alors quand même, pour ceux qui ou celles qui ne situent pas trop, quand même la Mauritanie, ça fait partie quand même des pays ultra arides. Donc c'est-à-dire que dès qu'on est un peu éloigné des villes, on risque tout simplement de crever de soif tellement il n'y a pas d'eau nulle part. Donc je les cite, ils nous ont jetés hors du bus, puis ils nous ont poussés vers la frontière, ils nous ont chassés comme des animaux, puis ils sont partis. Fin de citation. Depuis 2006, avec un accord bilatéral de réadmission de migrants entre la Mauritanie et l'Espagne, une cinquantaine de policiers espagnols sont déployés en permanence entre Nouakchott et Ouagadougou. De la même manière que les gardes-côtes grecs ont reçu la complicité des agents de Frontex dans leurs refoulements illégaux, en Mauritanie, les policiers espagnols sont également accusés de participer aux opérations consistant à laisser des personnes dans le désert. Du côté tunisien, c'est grosso modo la même histoire, mais il semblerait qu'en tout cas les cas de torture et de violence soient bien plus nombreux. En tout cas, ils sont bien plus documentés et ça intervient quand même dans un contexte en Tunisie où les crimes racistes sont se généralisent grandement et en tout cas même plus que au sein de la police, mais même au sein de la population, il y a vraiment un énorme racisme auprès de toute la population noire dans toute la Tunisie. Enfin,
ça s'est beaucoup développé suite au fait que le président tunisien, qui est arrivé par voie démocratique, mais qui a renforcé son pouvoir au point de devenir une sorte de dictateur, et à un moment où il était un peu vacillant, il a fait comme font beaucoup de chefs d'État démocratiques ou pas au moment où leur pouvoir vacille, c'est-à-dire qu'il a détourné l'attention vers les immigrés, les gens qui sont plus foncés de peau. Donc en France, on détourne sur les Arabes, mais dans les pays arabes, on détourne sur les Africains. Et c'est ce qu'a fait Kais Saied il y a peut-être 2 ans. Et depuis, le racisme en Tunisie a énormément remonté.
Et on le voit parce qu'il y a effectivement, on en a parlé plusieurs fois ici, mais des sortes d'opérations un peu punitives à l'égard des migrants et migrantes dans les quartiers où les gens se regroupent et tout. Donc ça crée encore une situation dramatique en plus. Selon une mission des Nations Unies en Libye, donc là c'est parce que donc la Tunisie est frontalière avec la Libye, 9000 personnes ont été interceptées depuis l'été 2023 par les autorités de Tripoli à la frontière tunisienne. Dans leur note interne, la mission déplore des expulsions collectives et des retours forcés sans procédure, exposant les migrants à de graves violations et abus des droits humains, au cas confirmé d'exécutions extrajudiciaires, de disparitions, de traite, de torture, de mauvais traitements, d'extorsion et de travail forcé. C'est-à-dire que là, il parle pas de la situation des migrants en Libye, mais de ce que les migrants qui ont été expulsés de la Tunisie vers la Libye ont subi. C'est-à-dire qu'une fois que ces personnes-là arrivent en plus en Libye, ils vont resubir la même chose. Depuis presque 10 ans, l'Europe participe au renforcement sécuritaire de la Tunisie, au début afin de lutter contre le terrorisme, puis peu à peu, cette aide vise l'immigration. 144 millions d'euros ont été alloués à la gestion des frontières pour la Tunisie. L'enquête du Monde et ses partenaires montrent que certaines de ces ressources ont directement été utilisées lors d'expulsions. Pour Marie-Laure Basilien-Guinche, professeure de droit public à l'université Jean Moulin de Lyon 3, je la cite, les États européens ne veulent pas avoir les mains sales, ils sous-traitent donc à des États tiers des violations des droits de l'homme. Du point de vue du droit, ils pourraient être tenus pour responsables. Donc là, on attend une espèce d'enquête super qui pourrait faire ça. La Commission européenne a informé le collectif du média par la voix d'un porte-parole que l'Union européenne attend de ses partenaires qu'ils remplissent leurs obligations internationales, y compris le droit au non-refoulement. Vous aurez compris que je te citais, je continue la citation. Tous les contrats de l'Union européenne contiennent des clauses relatives aux droits de l'homme permettant à la Commission d'ajuster leur mise en œuvre si nécessaire. Et c'est vrai que là, on voit très bien l'Union européenne dire « Ah, non, finalement, vous faites trop mal le sale boulot à notre place, on va arrêter de vous financer. » C'est évident.
Quoi, vous avez été raciste, on reprend tout le pognon.
C'est évident que ça arrivera pas. Et de fait, pour le groupement de journaux, les documents qu'ils ont pu se procurer attestent que les instances de l'Union européenne ont connaissance de ces arrestations et de ces déportations collectives. Donc ça, c'était pour le résumé un peu de leur enquête. De manière, bah, pour le coup, ça concernait pas l'enquête, mais il y a eu connaissance par l'ONG Alarm for Sahara que depuis en 2 mois, il y a eu 11 migrants qui sont morts de soif dans le désert algérien à la frontière avec le Niger. Donc, voilà, on a parlé du Maroc, de la Mauritanie et de la Tunisie. Il y a un pays entre les deux, c'est l'Algérie. L'Union européenne a également, j'imagine, des intérêts là-dedans. Et en tout cas, en 2 mois, il y a 11 personnes qui ont trouvé la mort dans le désert algérien suite à des refoulements illégaux. Et on va quand même finir, parce que c'est pas souvent, par une petite nouvelle très brève mais bonne. C'est en Grèce, c'est le soulagement après la relaxe de 9 Égyptiens poursuivis dans le naufrage de Pylos. On s'en rappelle, c'était un des naufrages les plus meurtriers qui était survenu en Méditerranée. C'était en juin 2023. Et voilà, en gros, lors d'un procès éclair, la justice grecque a abandonné mardi toutes les charges contre 9 Égyptiens accusés d'être à l'origine d'un des naufrages de migrants les plus meurtriers jamais survenus en Méditerranée. La Cour s'est déclarée incompétente pour juger cette affaire, qui s'est déroulé hors de Grèce et donc dans les eaux internationales. Donc elle n'a pas dit que c'était juste inhumain de les avoir accusés. En gros, presque immédiatement à leur arrivée à terre en juin 2023, Athènes a en effet poursuivi ces 9 hommes présents à bord de l'Adriana au motif qu'ils seraient des passeurs d'une part et à l'origine du naufrage d'autre part. En gros, l'un des prévenus témoignait « Je suis directement passé de la mer à la prison ». Voilà, donc ça c'est tout le monde s'inquiétait un peu que sous le couvert des lois anti-passeurs qui existent un peu partout en Europe, ces personnes se retrouvent accusées alors même qu'ils ont survécu à un naufrage. Voilà pour la bonne nouvelle, mais on rappelle quand même que dans ce naufrage il y avait 500 personnes qui se sont noyées, pardon. Voilà. On a fini ou est-ce qu'on a des nouvelles un peu?
Moi j'ai pas de nouvelles personnellement, mais on peut rappeler que du coup le collectif Femmes à la rue qui occupe un gymnase au 1 rue Casimir Perrier et a besoin de soutien maintenant est en train maintenant de se faire expulser. Et voilà, c'est ce que la mairie de Lyon utilise en matière de négociation avec ces femmes à la rue qui ont un collectif et qui essayent de se loger en tant que mère célibataire avec enfant. Voilà, la médiation de la ville passe par l'envoi de la police qui est actuellement sur place et apparemment commence à procéder à l'expulsion. Donc allez là-bas si vous voulez au 1 rue Casimir Perrier.
Et vous pouvez avoir des... Vous pouvez suivre des infos plus précises sur le compte Twitter, si jamais vous avez Twitter, de ce collectif. Il se nomme, écoutez, Collectif Solidarité entre Femmes à la rue. Donc voilà, et donc sur leur compte, on peut avoir un peu des nouvelles de ce qui se passe actuellement. Mais le mieux quand même reste d'aller jeter un œil au 1 rue Casimir Perrier dans le 2e arrondissement.
Vers Perrache.
C'est juste à côté de la gare.
Arrêt Sainte-Blandine.
Nous on a fini. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine. On vous laisse avec les bandes continues et quoi.
On va prendre notre suite.
Ah bah voilà, exactement. C'était ça que je voulais dire. Tout à fait. Allez, on se retrouve la semaine prochaine.
Au revoir.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org. Plus rebelle.